Chapitre 2. Il y a des mathématiciens précoces, témoin Pascal. Des poètes, non. Homère sexagénaire est plus croyable que La Fontaine enfant. Avant 20 ans, quelques lueurs peuvent apparaître. Avant ce terme, et plus loin encore, aucun génie de poète n'a atteint sa hauteur. Beaucoup, pourtant, étendent leurs ailes bien plus tôt. Faible essor, chute prochaine. Pour avoir pris leur vol prématurément, ils gisent bientôt sur le sol. Gazette, coterie, c'est votre ouvrage, relevez-les. La Fontaine signera bien tard, toute sa vie peut-être. N'est-ce point là son secret? Lisez ses préfaces, je vous prie. Se doute-t-il qu'il soit d'autre que tout le monde? Et ce n'est pas par modestie. Il n'a pas seulement assez de vanité pour être modeste. C'est nature simple et naïve, c'est bonhomie pure. Il chante, c'est son plaisir, non la mission qu'il se donne, non le but qu'il se propose. Il chante et la poésie coule à flot de ses lèvres. Il était bête, vous savez. Il se persuadait que Phèdre était son maître. Il oubliait de louer Louis le Grand. Sans y songer, il offensait les marquis et manquait les pensions. Bien niais, en effet, en comparaison de tant de poètes d'esprit. Quand j'eus fait disparaître ses livres et cahiers d'études, je fus un peu embarrassé de savoir que faire. J'allais y songer lorsqu'il se fit quelque bruit dans la chambre à côté. Je regardai par le trou de la serrure. C'était le chat de la voisine qui avait guerre avec un énorme rat. Je pris parti d'abord pour le chat qui était de mes amis, et je vis que l'appui de mes voeux ne lui serait pas inutile, car, déjà blessé au museau, il attaquait timidement un ennemi bien déterminé. Cependant, quand j'eus assisté quelques instants à la lutte, le courage et l'habileté du faible en face d'un adversaire si terrible commencèrent à attirer ma sympathie, en sorte que je résolus de garder une stricte neutralité. Mais j'éprouvai qu'il était bien difficile d'être neutre, c'est-à-dire indifférent entre le chat et le rat, surtout lorsque j'eus reconnu que ce rat et moi, nous nous trouvions être du même bord en matière d'Elzévir. En effet, l'animal s'était retranché dans le creux même que ses dents lui avaient préparé au sein d'un gros in-folio gisant sur le plancher. Je résolus de le sauver et aussitôt, ayant lancé contre la porte un violent coup de pied pour effrayer le matou, je réussis si bien que la serrure sauta et que la porte s'ouvrit. Il n'y avait plus que l'in-folio. L'ennemi disparut. De mon allié, pas de nouvelles. Cependant, j'étais compromis. Cette chambre était une succursale de la bibliothèque de mon oncle, pour leur absent. Un réduit poudreux, garni alentour de bouquins. Au milieu, une machine électrique délabrée, quelques tiroirs de minéraux. Vers la lucarne, une antique bergère. À cause des livres, on tenait cette chambre toujours fermée pour que je n'y pénétrasse point. Quand M. Rata en parlait, c'était mystérieusement et comme d'un lieu suspect. Sous ce rapport, l'accident servait merveilleusement ma curiosité. Je voulais faire de la physique, mais la machine ne jouant pas, je m'occupais de minéralogie. Après quoi, je revins à l'in-folio. Le rail avait travaillé en grand. Sur le titre, on ne lisait plus que « dictio ».« Dictionnaire », pensais-je. « Oh, voici un livre peu dangereux. Dictionnaire de quoi ?» J'en ouvris le volume. Il y avait un nom de femme au haut de la page, au-dessous du grimoire mêlé de latin, en bas des notes. Il s'agissait d'amour. Pour le coup, je fus bien étonné. dans un dictionnaire, mais qui l'aurait jamais cru? De l'amour dans un dictionnaire? Je n'en revenais pas. Mais les infolios sont pesants. J'allais donc m'établir dans la bergère, près de la lucarne, assez indifférent pour le quart d'heure au magnifique paysage qu'elle encadrait. Ce nom, c'était Héloïse. Elle était femme et elle écrivait en latin. Elle était abbesse et elle avait un amant. Mes idées étaient bouleversées par des anomalies si étranges. Une femme aimée en latin, une abbesse avoir un amant. Je reconnus que j'avais affaire à un très mauvais livre, et l'idée qu'un dictionnaire puisse permettre des histoires semblables atténuait mon antique estime pour cette espèce d'ouvrage d'ordinaire si respectable. C'était comme si M. Ratin, mon maître, comme si Mentor se fût mis tout à coup à chanter le vin et l'amour, l'amour et le vin. Je ne posais pourtant point le livre comme j'aurais dû le faire, mais au contraire, alléché par ses premières données, je lus l'article et toujours plus alléché, je lus les notes, je lus le latin. Il y avait des choses singulières, d'autres touchantes, d'autres mystérieuses, mais une partie de l'histoire manquait. Aussi, je n'étais plus tant pour le rat, et il me semblait que la cause du chat fut à quelques égards bien soutenable. Dans les volumes tronqués, c'est toujours ce qui manque qui semble le plus désirable à connaître. Les lacunes piquent la curiosité mieux que les pages ne la satisfont. J'ai rarement la tentation d'ouvrir un volume. Je défais toujours les cornets pour le lire. Aussi trouvais-je que, pour un auteur, finir chez l'épicier, c'est moins triste que de languir chez le libraire. Héloïse vivait au Moyen-Âge. C'est un temps que je me figurais tous deux couvents de cellules de cloches avec de jolies nonnes, des moines barbus et des sites boisés planant sur des lacs et des vallées. Des moines pommiers et son abbaye au pied du mont Salève. En fait, de Moyen-Âge, je ne sortais pas de là. Cette jeune fille était la nièce d'un chanoine, belle et pieuse enfant, charmante à mes yeux, autant par ses attraits naturels que par l'habit de religieuse sous lequel je me la représentais. J'avais vu à Chambéry des sœurs du Sacré-Cœur, et sur ce modèle je façonnais toutes les nonnes, toutes les religieuses, et au besoin jusqu'à la papesse Jeanne. Dans le temps qu'Héloïse, au sein d'une retraite profonde, s'embellissait de grâces pudiques et d'attraits ignorés, on ne parlait en tout lieu que d'un illustre docteur nommé Abélard. Il était jeune et sage, d'un vaste savoir et d'une intelligence hardie. Sa figure attachait autant que ses paroles. Sa beauté égalait sa gloire et devant sa renommée avait pâli celle de tous les autres. Abélard disputait dans les écoles sur les questions qui s'agitaient alors, et dans ces tournois, il avait terrassé tous ses adversaires sous les yeux de la foule, sous les yeux des femmes qui se pressaient dans l'amphithéâtre attentive aux grâces du bel athlète. Parmi cette foule se trouvait la nièce du chanoine. Cette fille distinguée d'esprit, ardente de cœur, écoutait avec trouble. Les yeux attachés sur le jeune homme, elle dévorait ses paroles, elle suivait ses gestes, elle combattait avec lui, elle terrassait avec lui, elle s'enivrait de ses triomphes. Et sans le savoir, elle s'abreuvait à longs traits d'un ardent et impérissable amour. C'est la science qu'elle croyait aimer. Aussi son oncle, charmé de cultiver de redon, appelait auprès d'elle Abélard pour la guider et pour l'instruire. Heureux amant, chanoine insensé, ici commençait le travail du rat. Je passais au revers, mais que tout était changé. Héloïse avait pris le voile. J'en fus ému, car je l'aimais, je partageais son ivresse. Et, belle que je me la figurais déjà. Je la vis alors plus belle de tristesse, plus jeune sous les antiques arceaux du cloître d'Argenteuil, puis touchante, succombant à ses douleurs jusqu'au pied des autels. Le livre relatait le tout dans un gothique langage. De ses pages antiques s'échappait comme un parfum de vétusté, en telle sorte que la vive impression du passé mariait son charme à la fraîcheur juvénile de mes sentiments. Cachée dans ce monastère, Héloïse s'efforçait d'éteindre aux eaux de la piété des feux brûlants encore. Mais la religion, impuissante à guérir cet âme malade, ajoutait à ses tourments. La tristesse, les regrets amers, les remords, un insurmontable amour dévorait les journées de cette pâle recluse. Ses yeux se mouillaient de larmes, elle pleurait. Elle pleurait Abélard absent, les jours de sa gloire et ceux de son bonheur. Femme coupable, mais bien touchante, belle et tendre pécheresse dont l'infortune colore d'un charme poétique tout cet âge lointain. Abélard, traduisais-je avec émotion d'une lettre où Héloïse demande des forces à son amant. Abélard, que de combat pour ramener un cœur aussi perdu que le mien. Combien de fois se repentir pour retomber encore, vaincre pour être ensuite vaincu, abjurer pour reprendre, pour ressaisir avec une nouvelle ivresse. Tant fortuné, doux souvenir où se brise ma force, où s'éteint mon courage. Quelquefois, je verse avec délice les larmes de la pénitence, je me prosterne devant le trône de Dieu, la grâce victorieuse est près de descendre dans mon cœur. Puis, votre image m'apparaît, Abélard. Je veux l'écarter, elle me poursuit, elle m'arrache à ce calme où j'allais entrer, elle me replonge dans ce tourment que j'adore en laborant. Charme invincible, lutte éternelle et sans victoire. Soit que je pleure sur les tombeaux, soit que je prie dans ma cellule, soit que j'erre sous la nuit de ses ombrages, elle est là, toujours là, qui plaît seule à mes yeux, qui les baigne de pleurs, qui jette le trouble et le remords dans mon âme. Que si j'entends chanter l'hymne saint, si l'encens s'élève vers la nef, si l'orgue remplit de ses sons l'enceinte sacrée, si le silence y règne, elle encore, toujours elle qui trouble ce silence, qui détruit cette pompe, qui m'appelle, qui m'entraîne hors des parvis. Ainsi votre Héloïse, au milieu de ces vierges paisibles que Dieu a reçues dans son port, demeure coupable, battue des orages, noyée dans une mer de passions ardentes et profanes. Après, et que j'eus savouré le puissant attrait de ces lignes mélancoliques, je me portais vers Abélard. Où le retrouverais-je? Hélas, l'orage avait grondé sur sa tête. Lui, si brillant naguère, je le retrouvais déchu, proscrit, fuyant de retraite en retraite, et dérobant ses misérables jours aux fureurs de l'envie et de la persécution. Les saints le dénonçaient, les moines lui donnaient du poison, les conciles brûlaient ses livres. Abreuvé d'amertume, il s'enfuit dans un lieu sauvage. « Dans mes jours heureux, écrit-il lui-même, dans mes jours heureux, j'avais visité une solitude ignorée des mortels, habité des bêtes fauves, où ne s'entendait que le cri rauque des oiseaux de proie. Je m'y réfugiais. Avec des roseaux, je bâtis un oratoire que je couvris de chaume, et m'efforçant d'oublier Héloïse, je cherchais la paix dans le sein de Dieu. Je fis une pause dans ce désert que la lettre d'Abélard met comme sous les yeux, admirant l'étrangeté de ses antiques aventures, le mouvement passionné de ses vies, ce poétique assemblage d'amour et de dévotion, de gloire et d'amertume. Et comme il arrive, quand le cœur est amorcé et l'imagination séduite, j'oubliais les malheurs de ces deux infortunés pour ne me souvenir plus que de cette ardente et habituelle tendresse à laquelle je portais envie. Abélard priait dans cet asile sauvage. D'ailleurs, on regrettait sa voix puissante, on plaignait ses malheurs et la renommée de sa fuite soudaine préoccupait la publique attente. Mais la ferveur et l'amitié avaient retrouvé sa trace. Quelques pèlerins d'anciens disciples arrivaient jusqu'à lui, et bientôt la foule, chargée de riches offrandes, prenait la route du désert. De ses dons, Abélard avait bâti la belle abbaye du Paraclet, sur la place même où s'élevait naguère l'oratoire de Chaume, lorsqu'il apprit que les moines de Saint-Denis, s'emparant du monastère d'Argenteuil, en avaient chassé les religieuses. Aussitôt, se dépouillant de son asile, il y appela sa chère Héloïse. La jeune abbesse y vint avec ses compagnes. Devant elle s'était retiré Abélard, et l'abbaye de Saint-Gilles-de-Ruy, dans le diocèse de Vannes, abritait sa triste destinée. Cette abbaye s'élève sur un rocher sans cesse battu des flots de la mer. Nulle forêt, nulle prairie ne s'y voit alentour, mais seulement une vaste plaine où gisent sur un terreau stérile quelques pierres éparses. L'escarpement des rives, en mettant à nu des rocs déchirés, forme comme une ligne blanchâtre qui seule varie le morne aspect de cette contrée. De sa cellule, le solitaire voit la longue ligne s'enfoncer avec les golfs, reparaître au promontoire, cindre les côtes lointaines et se perdre dans l'immense horizon. Cet affreux stère ne fut point trop triste pour Abélard. Son âme était plus triste encore. Toute joie y était tarie. Les fumées de la gloire s'en étaient envolées. L'image même d'Héloïse y restait empreinte que pour y nourrir un regret amer, un repentir sombre. Cependant, au sein d'une solitude dont aucun bruit du monde ne variait la lugubre uniformité, l'illustre pénitent, ramené sans cesse sur lui-même, repassait les égarements de sa vie. Il sondait à loisir le vide de la gloire, la vanité des plaisirs. Il se pénétrait de plus en plus du néant des choses humaines. Puis, ému pour Héloïse, dont l'impénitence se dévoilait dans des lettres brûlantes, il retrouvait quelque pieuse ardeur, un saint effroi relevait son courage, ranimait ses forces éteintes. C'est alors que cet homme, grand autant qu'infortuné, entreprend la difficile tâche d'épurer son âme, de briser les liens qui l'enchaînent encore à la terre, de tendre vers les célestes demeures et d'y entraîner avec lui son amante. C'est alors qu'il écrit cette fameuse lettre, où, vainqueur enfin de cette lutte opiniâtre, il tente à son Héloïse une main de secours. Il encourage ses efforts, soutient ses pas, et fait luire à ses yeux, au travers de la poussière du sépulcre, la vive et consolante lumière des cieux. Héloïse, écrit-il en terminant, je ne vous reverrai plus sur cette terre. Mais lorsque l'Éternel qui tient nos jours entre ses mains aura tranché le fil de cette vie infortunée, ce qui selon toute apparence arrivera avant la fin de votre carrière, je vous prie de faire enlever mon corps en quelque endroit que je meure et de le faire transporter au Paraclet pour y être enterré auprès de vous. Ainsi, Héloïse, après tant de traverses, nous nous trouverons réunis pour toujours et désormais sans danger comme sans crime. Car alors, crainte, espérance, souvenir, remords, tout sera évanoui comme la poussière qui s'envole, comme la fumée qui se dissipe dans l'air, et il ne restera aucune trace de nos égarements passés. Vous aurez même lieu, Héloïse, en considérant mon cadavre, de rentrer en vous-même et de reconnaître combien il est insensé de préférer, par un attachement déréglé, un peu de poussière à un corps périssable, ville pâture des vers, au Dieu tout-puissant, immuable, qui peut seul combler nos désirs et nous faire jouir de l'éternelle félicité. J'avais fini depuis longtemps de lire cette histoire, que mon esprit demeurait tout entier attaché. Le livre sur les genoux et les regards tournés vers le paysage que doraient les feux du couchant, j'étais réellement au paraclet, j'errais au pied de ses murailles, je voyais sous de sombres allées la triste Héloïse, et tout rempli de sympathie pour Abélard, avec lui j'adorais cette amante infortunée. Et ces images ne tardèrent pas à se confondre avec les objets qui frappaient ma vue, en sorte que, sans quitter l'antique bergère, je me trouvais transporté dans un monde resplendissant d'éclat et tout rempli d'émotions poétiques et tendres. Mais outre cette lecture, outre la vapeur embrasée du soir et le brillant spectacle que m'ouvrait la lucarne, d'autres impressions se mêlaient à ma rêverie. Parmi les bruits confus qui, dans une ville, signalent l'activité des rues, le travail des métiers, le mouvement du port, les sons éloignés d'un orgue de barbarie apporté par les airs venaient doucement mourir à mon oreille. Sous le charme de cette lointaine mélodie, tous les sentiments prenaient plus de vie, les nuages plus de puissance et le soir plus de pureté. Une fraîcheur inconnue paraît la création entière, et mon imagination, planant dans les espaces d'azur, goûtait au parfum de mille fleurs sans se fixer sur aucune. Insensiblement, je m'étais éloigné d'Héloïse, j'avais délaissé son ombre auprès des vieux êtres, sous les gothiques arceaux. J'avais navigué sur les âges, et bientôt, perdant de vue les cimes bleuâtres du passé, je m'étais rapproché de rivages plus connus, de jours plus voisins, d'êtres plus présents. Aussi, quand l'orgue vint à se taire, je rentrai dans la réalité, et le gros livre qui pesait sur mes genoux, m'étant redevenu indifférent, j'allais machinalement le reporter dans sa case. Quelle est morne l'heure qui succède à ces émotions, que le retour est amer des éclatants domaines de l'imagination aux rives ingrates de la réalité. Le soir m'apparaissait triste, ma prison odieuse, mon oisiveté un fardeau. Pauvre enfant, qui aspires à sortir, à aimer, à vivre de ce poétique souffle, et qui retombes ainsi affaissé sous ton propre effort. J'ai compassion de toi. Bien des mécontes t'attendent, bien des fois encore ton âme, comme soulevée par une douce ivresse, tentera de se détacher de la terre pour voler vers la nuit. Autant de fois une lourde chaîne retiendra son essor, jusqu'à ce que, domptée enfin, faite aux joues, elle est appris à se traîner dans le sentier de la vie. Heureusement, je n'en étais point là, et sans sortir de ce sentier de la vie, j'y rencontrai une personne autour de laquelle mon cœur, reportant toutes ses émotions, en prolongeait à son gré le charme et la durée. Cette personne, je ne manquais pas pour l'heure d'en faire mon Héloïse, non pas infortunée, mais tendre, non pas pécheresse, mais aussi pure que belle, et comme si elle eût été présente, je lui adressais les apostrophes les plus vives, les plus passionnées. On voit que j'étais amoureux. C'était depuis 8 jours, et depuis 6, je n'avais pas revu l'objet aimé. Comme font les amants malheureux, les premiers jours, je m'étais bercé d'espoir. J'avais ensuite cherché des distractions qui, comme on l'a vu, m'avaient fort mal réussi. Était venue ensuite ma captivité, et dès les premiers loisirs de cette vie oisive, je n'avais eu garde d'oublier mes amours. Mais ce soir-là, ma passion, fortement attisée par la romanesque lecture que je venais de faire, finit par se lasser des apostrophes et par me porter vers des voies désespérées. Que l'on sache seulement qu'en pénétrant dans la chambre qui était au-dessus de la mienne, je pouvais y voir ma bien-aimée. Oui, elle s'y trouvait seule à cette heure. La lucarne m'ouvrait un chemin pour y pénétrer par les toits. La tentation était donc irrésistible, d'autant plus que je me trouvais déjà sur le toit depuis un moment. Je m'y assis pour prendre du courage et me familiariser avec mon projet, car ce commencement d'exécution me causait une émotion si grande que j'étais sur le point de rebousser. Pour le moment, je n'eus rien de plus pressé que de m'effacer entièrement en me couchant sur le toit. Je venais d'apercevoir M. Ratin dans la rue. Un peu revenu de ce coup de foudre, je me hasardai à soulever la tête de manière à voir par-dessus la saillie du toit. Plus de M. Ratin. Il m'était évident qu'il montait l'escalier et qu'avant une minute, il me surprendrait allant en bonne fortune. Oh, que j'avais de remords et de contrition, que le repentir m'était facile et que je sentais bien l'énormité de ma faute lorsque je vis reparaître M. Ratin et disparaître le remords et l'énormité. M. Ratin, après avoir traversé une allée, cheminait tranquillement dans une direction qui l'éloignait de moi. Bientôt, je le perdis de vue. Mais je compris que je ne pouvais rester à cette place sans risquer d'être aperçu du soupirail de la prison, dans le fond duquel, de cette région élevée, je plongeais avec effroi mes regards. Je me remis donc en route pour profiter de ce qui restait de jour, et en quelques pas, j'atteignis à la fenêtre que je cherchais. Elle était ouverte. Mon cœur battait avec force, car malgré la certitude que j'en avais, je ne pouvais assez me persuader que ma bien-aimée fût seule en ces lieux. J'hésitais donc, lorsque tout à coup je m'entendis dire « Entrez, et ne craignez pas qu'on vous trahisse, mon jeune homme !» C'était la voix du prisonnier. Dès le premier mot, perdant toute présence d'esprit, je sautai brusquement dans la chambre, où je me trouvais sur les épaules d'une belle dame richement habillée qui roula par terre avec moi. Je ne puis décrire ce qui se passa dans les premiers instants qui suivirent la chute, car j'avais perdu tout sentiment. La première chose qui me frappa quand je revins à moi, c'est que la dame gisait la figure contre terre, me faisant entendre ni cri ni plainte. Je m'approchai en rampant à moitié. « Madame, lui dis-je d'une voix basse et altérée. » Point de réponse. « Madame !» Rien. Me voici arrivé à un événement bien lugubre. Une respectable dame morte, un écolier assassin. Mon critique va dire que je force à dessein la situation pour sacrifier au faux goût moderne. Ne te hâte pas de dire cela à critique. Cette dame était un mannequin. J'étais dans l'atelier d'un peintre. Alors dis autre chose, critique. Je commençais par relever la dame, après néanmoins que je me fus relevé moi-même. Le plus bête des sourires circonvolait sur sa face vermeille, bien que son nez eût gravement souffert. Je fis quelques réparations, mais c'était une trop petite partie du mal pour que je m'y arrêtasse longtemps. En effet, cette dame avait été donnée du nez contre la boîte à huile, qui, perdant l'équilibre, était tombée en répandant par la chambre les pinceaux, la palette et les huiles. Je voulus remettre quelque ordre dans ces objets, mais c'était encore une trop petite partie du mal pour que je m'y entêtasse beaucoup. En effet, la boîte à huile, en tombant, avait atteint le pied d'un grand nigaud, le chevalet, lequel, s'étant mis aussitôt à chanceler, avait finalement pris le parti de tomber, en mirant juste dans la poitrine d'un beau monsieur qui, pendu à un clou, nous regardait faire. Le clou avait suivi son monsieur, qui avait suivi le chevalet, et tous ensemble étaient venus s'ébattre sur la lampe qui avait brisé la glace en renversant une bouilloire. Le dégât était horrible, l'inondation générale, et la dame souriait toujours. Au milieu de cette catastrophe, mes amours avaient un peu souffert par l'effet de distraction si vive et si inattendue. Pendant que je restais là à réfléchir sur ma situation, je profite du quart d'heure pour faire savoir de qui j'étais amoureux et comment je l'étais devenu. Au-dessus de ma chambre était celle d'un habile peintre de portraits. Ce peintre avait le grand talent de faire les gens à la fois ressemblants et agréables. Oh, quel bon état quand on le pratique ainsi! Quel appât merveilleux où se viennent prendre carpes, brochets, carpillons, et jusqu'aux loutres et aux veaux marins, et de plein gré, et sans se plaindre, de l'hameçon, et en remerciant le pêcheur. Souvenez-vous du bourgeon. Une fois que vous êtes devenu aisé, riche, n'est-ce pas l'un des premiers conseils qu'il vous donne que de faire reproduire sur la toile votre intéressante, originale, et à tout prendre, si aimable figure? Ne vous dit-il pas que vous devez cette surprise à votre mère, à votre épouse, à votre oncle, à votre tante? S'ils sont tous morts, ne vous dit-il pas qu'il faut encourager l'art, faire gagner un pauvre diable? Et si le pauvre diable est riche, n'a-t-il pas mille autres rubriques? Borner un panneau, faire un pendant? Car enfin, que veut-il le bourgeon? Il veut que vous voyez là, sur la toile, joli, pimpant, frisé, linge fin, gants glacés. Il veut surtout qu'on vous y voie, qu'on vous y admire, qu'on y reconnaisse et vos traits, et votre richesse, et votre noblesse, et votre talent, et votre sensibilité, et votre esprit, et votre finesse, et votre bienfaisance, et vos lectures choisies, et vos goûts délicats, et tant d'autres choses exquises qui font de vous un être tout à fait à part, rempli des mille et une qualités charmantes, sans compter vos défauts, qui sont eux-mêmes des qualités. Voulant tout cela, est-il étonnant que le bourgeon vous presse, au nom de votre père, au nom de votre mère, par votre épouse et par vos enfants, de vous faire peindre, repeindre et peindre encore? Bien plutôt, je m'étonnerais du contraire. L'art du portrait est donc éminemment lié à la théorie du bourgeon, et beaucoup de peintres, pour avoir méconnu ce principe, sont morts à l'hôpital. Ils faisaient le brochet, le marsouin, grand peintre, mauvais portraiteur. Les gens s'en sont éloignés, et la faim les a détruits. Ce peintre avait donc toutes les mines fashionables à reproduire, et ne se passait pas de jour que l'on ne vit de belles voitures apporter leur maître et les attendre devant la maison. Ce m'était un passe-temps délicieux que de considérer les beaux chevaux, de les voir se chasser les bouches, que d'écouter les cochers siffler ou faire claquer le fouet. Mais en outre, ces mêmes personnes qui sortaient de la voiture et dont je ne pouvais voir le visage de ma fenêtre, j'étais sûr de pouvoir, au bout de 2 ou 3 jours, contempler leurs traits à loisir et autant que j'en aurais envie. En effet, le peintre avait pour habitude, entre les séances, d'exposer ses portraits au soleil, en dehors de sa fenêtre, les suspendant à 2 branches de fer disposées à cet effet. Une fois qu'ils étaient là, je n'avais qu'à lever les yeux et je me trouvais au milieu de la plus belle société, milord et baron, duchesse et marquise. Tous ces gens pendus aux clous se regardaient, je les regardais et nous regardions. Or, le lundi précédent, au bruit d'une voiture, j'étais accouru à mon poste. C'était un brillant carrosse, 4 chevaux, attelage superbe, gens en livrée. La voiture s'arrêta, il en sortit un vieillard infirme que soutenaient respectueusement 2 laquais. Je notai son crâne chauve et ses cheveux argentés pour le bien reconnaître lorsqu'il arriverait à la galerie. Quand le vieillard eut mis pied à terre, une jeune fille descendit de la calèche. Alors les 2 laquais se retirèrent, et le vieillard, s'appuyant sur le bras de la jeune fille, ils entrèrent doucement dans l'allée. Un gros épagneul les suivait en jouant. Je me sentis ému à cette vue, non point tant à cause de ce qu'il y a de réellement touchant à voir une fille jeune et belle servir d'appui au vieillage, mais surtout parce que, dans mon habituelle préoccupation de tendre pensée, cette aimable nymphe, parée de tout ce qui rehausse la grâce et la beauté même, en me montrant la mortelle que je rêvais confusément, fixait sur elle les vagues sentiments, les feux sans objet qui depuis quelque temps agitaient mon cœur. Une chose plus particulière à cette jeune personne avait contribué à me séduire par un charme inattendu. C'était la grande simplicité de sa mise. Au milieu de tant de signes d'opulence, je ne sus lui voir qu'un simple chapeau de paille, qu'une robe blanche et néanmoins tant d'élégance et de grâce, qui me semblait que seul en des lieux écartés et privé de tout cet entourage de richesse, je l'eusse pu méconnaître à son port, à sa démarche, à tout son air, son rang, sa richesse, et jusqu'à ce noble dévouement qu'il apportait à se dérober aux hommages des jeunes hommes pour soutenir les pas d'un vieillard. Et puis, le dirais-je, j'étais déjà gâté par la société que je voyais à ma fenêtre. Le rang, la richesse, la grâce et le bon goût des manières de la mise, toutes ces choses avaient pris pour moi un irrésistible attrait. À voir ces personnes, j'avais perdu toute sympathie pour ce qui est commun, pour ce qui est vulgaire, pour ma classe et mes semblables. Et si, à la vérité, sous quelque habit que ce fût, une jeune fille m'eût vivement ému, sous l'aspect de celle-ci, elle devait m'enflammer, me passionner sans mesure. Et c'est ce qui ne manqua pas d'arriver, en sorte que je me trouvais subitement épris de cette jeune Antigone. Du reste, ma passion était d'une qualité si pure, si distinguée, que je ne songeais seulement pas à me demander si ce n'était point là une de ces calypsos dont M. Ratin m'avait tant parlé. Et ceux qui croient qu'un amour d'écolier, pour être sans espoir et sans but, n'est pas vif et dévoué, cela se trompe. Ce sont des gens qui n'ont jamais été écoliers, ou bien ce furent des écoliers bien forts sur la particule et le cœur retranché, des écoliers admirables de mémoire, sages d'esprit, tempérés de cœur, rangés d'intelligence, bridés d'imagination, et toutes les années couronnés par 3 fois. Des écoliers modèles, des modèles selon M. Ratin, des M. Ratin en espérance. Oh, ils sont à présent des ministres, des avocats, des épiciers, des poètes, des instituteurs, des marchands de tabac, et où qu'ils soient, au tabac ou dans la chair, à la banque ou sur le Parnasse, ils sont toujours des ministres modèles, des épiciers modèles, des poètes modèles, des modèles, tous des modèles, et rien que des modèles, sans plus ni moins. Mais c'est déjà bien beau. Que mon amour ne fût pas vif et dévoué, parce que je ne pouvais m'en promettre que de folles extases, que je ne lui eusse pas tout sacrifié, quand même je n'en pouvais rien attendre. Ah, Vous vous trompez fort. Pour un seul regard de cette aimable fille, j'aurais donné M. Ratin pour un sourire. J'aurais mis le feu aux quatre Elzévirs du Vatican. Ils montaient l'escalier. Quand ils eurent dépassé mon étage, j'ouvris doucement la porte, et alors l'Espagnol se précipita dans ma chambre, joyeux, brillant, amical. C'était un animal magnifique. Outre sa beauté et l'extrême propreté de son poil soyeux, ses allures, son air et jusqu'à ses manières avaient quelque chose d'élégant et d'aimable. En sorte que, faisant abstraction de la différence de nos natures, je me surpris à le regarder avec quelque envie, comme chien de haut lieu, comme chien familier avec des personnes trop élevées pour seulement se plaire à mes respects, surtout comme chien aimé de cette belle demoiselle pour qui, moi, je n'étais rien. Au nom qui était gravé sur le collier, je me confirmais dans l'idée qu'elle était anglaise. Quand le chien fut sorti, je n'eus rien de mieux à faire que de m'occuper de ce qui se passait au-dessus de moi. Pour saisir quelque chose de ce qui s'y disait, je m'approchai doucement de la fenêtre. Le peintre et le vieillard causaient ensemble, mais la jeune fille demeurait silencieuse. « Vous avez là, monsieur, disait le vieillard, une triste figure à peindre. Et comme la copie est destinée à survivre bientôt à l'original, ce que vous pourrez y mettre de moi triste sera le bienvenu, car je suis point curieux de faire peur à mes petits-enfants. Certes, continua-t-il en souriant doucement, ce n'est pas coquetterie que de me faire peindre à l'âge et dans l'état où je me voici, et je pense que beaucoup de vos modèles choisissent mieux leur moment. Pas toujours, monsieur, dit le prêtre. Une figure aussi vénérable que la vôtre se rencontre plus rarement peut-être que la fraîcheur et la jeunesse elle-même. C'est un compliment, monsieur, je l'accepte. N'ai plus beaucoup de temps à recevoir. Lucie, je vous attriste, mais, ma chère enfant, ne sauriez-vous envisager l'avenir aussi tranquillement que votre père? Je vous prie, quand nous nous quitterons, qui de nous deux a le plus à regretter? J'en fais juge, monsieur. Ah, je me récuse, monsieur. Il me paraît, comme à mademoiselle, qu'une pareille séparation doit être si à craindre pour tous les deux qu'il vaut mieux en détourner les yeux. Ben voilà justement, monsieur, ce que j'appelle faiblesse. C'est celle dont je voudrais guérir ma fille. Oh, je l'excuse, cette faiblesse, quand il s'agit de ses coups, qui, trompant de légitimes espérances, frappe la jeunesse dans sa fleur et lui ravissent ses belles années, qui lui semblaient acquises. Mais quand la mort nous atteint au terme prévu de la vie, quand elle est comme le sommeil qui vient succéder aux fatigues d'une journée laborieuse, quand un père, heureux jusqu'au dernier moment de la tendresse de sa fille chérie, n'aspire plus qu'à s'endormir dans ses bras, est-ce donc là un si triste tableau? Qu'il faille en détourner les yeux, et faut-il tant de force pour en soutenir la vue? Allez, Lucie, pourquoi ces larmes? Voyez, tâchez de voir comme moi, mon enfant, et nos jours seront paisibles, et nous en goûterons les joies jusqu'au dernier terme. Et ce malheur, bien moins grand lorsqu'on a pu l'envisager en face, ne se grossira pas de tout ce que l'imagination, les fausses terreurs, une inutile résistance, ils peuvent ajouter de sinistre et de terrible. Pardon, monsieur, ajouta-t-il, c'est notre sujet de guerre avec ma Lucie. Et sans ce portrait qui m'a ramené vers ses idées, je n'ai juste pas pris la liberté de renouveler ici les hostilités. J'écoutais avec ravissement ces paroles qui, tout en m'apprenant tant de choses, paraît encore cette jeune fille d'un attrait de mélancolie et de filiale tendresse. Quoi, pensais-je, ces beaux chevaux, ces laquais respectueux, cette calèche, tout ce luxe, tant de sujets de joie ou de vanité, et la reine de ces choses, les yeux mouillés de larmes, qui s'attriste à l'idée de ne pas se dévouer pour toujours à son vieux père. C'était une simple ébauche où j'ai reconnu sans peine le beau vieillard. Il occupait la gauche du tableau. Sur la droite, un grand espace laissé vide produisait à mon sens un très mauvais effet. Mais dès la seconde séance, le tableau ayant été retiré de la galerie, bien que cette fois la jeune Miss fût venue seule, je me confirmais dans l'idée que l'espace vide lui était réservé et que j'allais enfin contempler ses traits. « Vous m'aviez promis, mademoiselle, lui dit le peintre, de me fournir un croquis de l'endroit de votre parc où monsieur votre père désire être placé. » « J'y ai pensé, monsieur, répondit-elle, il est dans la voiture. » Puis s'approchant de la fenêtre, « John, bring me my album, if you please. » Mais je m'aperçois que John n'y est plus, reprit-elle en souriant. En effet, ces gens, ayant laissé un pauvre diable auprès des chevaux, se recréaient dans quelque café du voisinage. « Mais je vais y aller, » dit le peintre. Mais je l'avais précédé, et déjà, je remontais l'escalier, imprimant mes lèvres sur l'album de la jeune Miss. J'espérais parvenir jusqu'à la porte de l'atelier et de là, entrevoir sa figure. Mais je rencontrais le peintre en chemin. « Grand merci, vous êtes ma foi le plus charmant garçon que je connaisse. » Et il prit le livre de mes mains. Je retournai à mon poste plus tranquillement que je ne l'avais quitté, et j'eus grand tort. J'avais perdu des paroles dont chacune avait un prix inestimable. Le complaisant enfant, il sait donc l'anglais ? Fort bien, oui, celui qui d'ordinaire me sert de truchement auprès de vos compatriotes. Un aimable jeune homme. Il est fâcheux qu'il ne soit pas destiné à devenir un artiste, comme l'y porteraient ses goûts et ses talents. Le peintre s'interrompit. Puis, s'étant levé, « Je veux vous montrer. Voici, c'est un croquis qu'il fit un jour à cette fenêtre. Le lac, un morceau de la prison, ce mauvais chapeau suspendu à portée des passants pour quêter l'aumône indique la présence du pauvre prisonnier pour qui cette belle nature est invisible. « Une charmante composition, » dit-elle, et rempli de sentiments, mais pourquoi gêner un penchant qui paraît si décidé ? Oh, ce sont ses tuteurs, ils veulent qu'il suive la carrière du droit. Ses tuteurs, il est donc orphelin ? Oh, depuis longtemps, il n'a plus qu'un vieil oncle qui pourvoit à son éducation. Pauvre enfant, dit la jeune Anglaise avec un accent plein de compassion. Ces paroles m'enivrèrent. Elles m'avaient plaint. Oh, c'était assez pour que je fusse glorieux de me trouver orphelin pour changer en félicité mon plus grand malheur. Oh, que j'eusse voulu retenir sur moi sa pensée. Mais au lieu de ce bonheur suprême, ses discours changèrent d'objet et j'appris par quelques mots que dans 8 jours, elle repartirait pour l'Angleterre. Que deviendrais-je alors, face à face avec M. Ratin ? Je m'abandonnais à la tristesse. Angleterre, pays charmant, vers lequel voguent les navires. Frais rivage, parc ombragé, où vont les jeunes Miss promener leur mélancolie. Ici, tout est sans charme, ici, rien n'est aimable. Je regardais le lac sans plaisir. Quand elle s'éloignera, quand d'autres contrées la verront passer, quand, à l'heure de midi, elle voyagera par les routes poudreuses, laissant tomber ses regards sur la verdure des arbres et des prés. Que ne suis-je donc dans ces prés, sous ces arbres ? Jeune Miss, vous fuyez ? Que ne suis-je devant ces chevaux, exposé à être foulé par eux ? Je verrai sa crainte, je retrouverai sa compassion. Et je m'imaginais que sans sa compassion, ce n'était pas la peine de vivre. La séance était finie. Tout en songeant ainsi, j'attendais avec une avide impatience que le portrait vînt à la galerie. Mais le soir arriva avant qu'il eût paru, et les jours suivants se passèrent dans cette ingrate attente. C'est alors que, les événements m'ayant conduit vers la lucarne, je ne pus résister au désir d'aller jusque dans l'atelier même contempler les traits de celle qui régnait sur mon cœur. On l'a vu, quelle catastrophe s'ensuivit, et comment j'étais resté à songer au milieu d'un beau désordre. Je reprends mon récit. J'avais cette fois le sentiment très net de ma ruine définitive. Déjà coupable de mensonges et de lèse Elzévir, aller encore enfoncer une porte, lire des livres défendus, puis m'échapper de ma prison, puis courir les toits, puis porter le ravage et la destruction dans un atelier, déranger un mannequin, percer un tableau, affreuse série de crimes dont M. Ratin tenait le premier chaînon, à savoir le fou rire. Que faire? Arranger, réparer, remettre en place? Impossible. Il y avait trop de mal. Inventer une fable? Tout à l'heure, à propos du hanneton, je n'avais pas trouvé que ce fût si facile. Avouez, plutôt tout au monde, car il aurait fallu laisser voir que j'étais amoureux et que, au seul soupçon d'une pareille immoralité, je voyais toute la pudeur de M. Ratin lui monter au visage et son seul regard m'anéantir. Je résolus de reprendre le chemin de ma chambre, de refermer sur moi la porte et de m'adonner à l'étude avec plus de zèle que jamais, soit pour écarter de mon esprit d'importune terreur, soit pour donner le change à M. Ratin, qui serait très certainement content de ma moralité si je lui présentais une copieuse provision de devoirs bien écrits, soigneusement faits et témoignant de ma parfaite application. Seulement, comme le jour baissait rapidement, je crus devoir différer mon départ de quelques minutes encore afin que l'obscurité me dérobât au regard du prisonnier quand je repasserai sur le toit. Je mis à profit ces minutes pour contenter ma curiosité. Après quelques recherches, je trouvai le portrait adossé à la muraille et je l'approchai du jour. Il était presque achevé. La jeune Miss, dans une gracieuse attitude, était assise auprès de son père et sa main délicate reposait négligemment sur le cou du bel épagneul. D'antiques hêtres ombrageaient la scène et par une trouée on apercevait un beau château assis sur une pelouse qui dominait la mer. À la vue de ses traits, tout remplis de grâce et animés par un touchant attrait de douceur et de mélancolie, j'éprouvais les plus tendres émotions, mais pour retomber bientôt dans l'amer regret de ne lui être rien, de la voir s'éloigner bientôt, tout en me repaissant du charme de son regard. « Pourquoi, lui disais-je, mais pourquoi n'êtes-vous pas ma sœur? Que vous me trouveriez un frère tendre et soumis, que je rendrais heureux avec vous ce vieillard? Que la verdure est belle où vous êtes, que les déserts seraient aimables avec vous. Lucie, ma bien-aimée. » La nuit était venue, je me séparais tristement du portrait, et je me retrouvais bientôt dans ma chambre, au moment où l'on m'apportait la lumière et mon souper. Dans l'état d'agitation où je me trouvais, je n'avais ni faim ni sommeil. Aussi, je ne songeais qu'à me mettre vite à l'ouvrage, afin d'être en mesure de présenter à M. Ratin les preuves visibles de mon travail et de mon entière régénération, à quelque moment qu'il vint me surprendre. Après César, Virgile, après Virgile, Bourdon, après Bourdon, trois pages de composition, et après les trois pages, je m'endormis.